9h26 minutes. Notre invitée s'appelle Angèle Libby. Elle est de Strasbourg et elle a écrit un livre qui s'appelle Une larme m'a sauvé. Et c'est assez troublant parce que si on a connu un proche qui a dû vivre dans le coma pendant un certain temps, on se demande toujours est-ce qu'il nous entend, est-ce qu'il est conscient de notre présence, et on ne sait pas toujours quoi répondre. On a parfois l'interprétation des médecins, mais la question demeure pertinente. Madame Libby a été terrassée par une maladie, s'est retrouvée dans le coma, et l'expérience qu'elle raconte est pour le moins assommante. Bonjour, Madame Libby.
Bonjour.
Vous étiez une femme en forme, travaillant dans une usine, faisant du sport, bref, en parfaite santé.
Oui, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, le 13 juillet 2009, je suis soudain pris par une très forte migraine, et tout d'un coup, j'avais des picotements dans les doigts. Et puis, ça s'arrêtait pas. J'ai pris un cachet, je me suis couchée, puis c'était de pire en pire. Et le soir, on a décidé d'aller appeler le SAMU. Et donc, je me suis retrouvée aux urgences. Là, ils trouvaient rien. Donc après, ils ont vu que j'arrivais plus trop à respirer, problème respiratoire. Et de là, j'ai été mis en coma médicalisé pour 24 heures en essayant de trouver ce que j'ai.
Et durant cette période, toutes ces heures, étiez-vous consciente de ce qui se passait autour de vous?
Au départ, c'était assez flou. C'est assez flou, je dois dire. Je pense que j'aurais pu partir paisiblement. Et sans même m'en rendre compte, j'entendais « Est-ce que votre femme parle toujours aussi doucement ?» C'est pour ça que je le sais maintenant, mais moi-même, je ne me rendais pas compte. J'avais l'air essoufflé, c'est tout.
Vous décrivez dans le livre d'entrée de jeu le noir qui vous entoure et la difficulté, l'espèce d'angoisse en même temps, de se retrouver plongé dans une situation comme celle-là.
Ouais, c'est terrible. Donc, au bout des 24 heures, je devais me réveiller, mais visiblement, je me réveillais pas. Mais moi, je me suis réveillée. C'est là que je me suis rendu compte que le noir, que j'étais dans un noir complet, que j'avais du mal à respirer. Je croyais qu'on m'écrasait les côtes. À un moment donné, je me demandais s'il y a eu un séisme ou quelque chose que j'ai pas vu ou arrivé. Je savais plus. Enfin, je me disais, j'ai du mal à respirer. Et alors, j'entendais quelqu'un qui respire. Mais très très vite, je me demandais ce que c'était parce que j'arrivais pas à suivre son rythme. Et en fait, c'était ma machine, mon respirateur.
Pour que les gens comprennent bien, est-ce que vous voyez quelque chose, vous ressentez quelque chose, vous entendez? Vous êtes dans quel état?
Je vois rien. Je peux même pas ouvrir les yeux. Je ne vois le noir total, mais j'entends. J'entends les sonneries quand ma visite vient me voir. J'entends qu'ils disent que deux à la fois. J'entends mettez la blouse. Je ressens beaucoup de choses. Je ressens les personnes autour de moi qui parlent ou qui parlent pas. Je les ressens. Je ressens leur douleur. Les pleurs retenus. Je les ressens vraiment. Et même, je pense qu'une certaine aura se développe parce que je sentais même les gens qui allait me faire mal ou qui me manipulait pas trop bien et enfin je sentais les gens qui me faisaient du bien ou du mal.
Est-ce que vous sentez ou vous comprenez que les gens parlent de vous en ayant l'impression que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent?
Oui, j'ai entendu à plusieurs reprises qui parlaient de moi et comme si j'étais déjà plus là comme quand on parle en cachette, enfin dans un recoin devant un meuble, enfin. Ils se disaient leurs petits secrets, leur week-end, comme si moi je n'existais pas.
Dans le livre, vous parlez d'un moment important où les médecins expliquent qu'il n'y a plus beaucoup d'espoir et que votre mari doit préparer la suite des choses, donc les funérailles.
Oui, au bout du quatrième jour déjà, ils ont envoyé mon mari faire les démarches. Le médecin lui disait il faudrait faire les démarches parce que vaut mieux le faire avant qu'après, puisque j'étais censée de plus revenir, quoi. Je devais rester un légume. Bon, ça, directement, je ne l'ai pas entendu. Mais il est allé, effectivement. Je suis peut-être la seule au monde à avoir lu, enfin, j'ai vu ce qui était prévu pour moi.
Est-ce qu'on a envie de crier pour dire qu'on est là, qu'on est vivant et qu'on est conscient?
Crier, hurler, prier, tous les dieux même, si le mien ne m'aide plus, Même je me disais, si les vivants, les gens qui sont là ne me voient pas que je suis vivant, j'implorais, même ma mère qui est décédée depuis longtemps. Je me suis dit, même elle supporterait pas que je parte déjà, puisque je suis la plus jeune d'une fratrie de 5. Donc, et elle-même, enfin, mes parents ont vécu assez très âgés, presque centenaires. Donc, elle comprendrait pas pourquoi moi, la plus jeune, partirais en premier. Donc, je me suis dit, elle va m'aider, elle va faire quelque chose. Enfin, je ne désespérais quand même pas. Malgré tout, je me suis dit, ils vont finir par remarquer.
Notre invitée ce matin, Angèle Libby, auteure du livre « Une larme m'a sauvé ». Une larme vous a sauvé parce que il y a une larme qui vous a coulé comme ça sur la joue, oui. Et ce qui a comme démontré que vous étiez, on pouvait vous ramener, quoi, que vous étiez là, vivante.
Oui, mais il y avait déjà eu des larmes avant, mais tout le temps, les médecins disaient « c'est pas possible, c'est du gel, le gel qu'on me met dans les yeux ». Mais ma fille, elle avait vraiment fait attention. Au bout du 12-13e jour, elle a dit... Quand elle arrivait, il n'y avait pas de larmes. Et donc, elle m'a dit des choses très intimes. Me connaissant, elle s'est dit, si là, elle pleure, c'est qu'elle m'entend. Et là, j'ai pleuré et elle a dit, maman, elle entend.
C'était quoi la maladie?
Le syndrome de Bickerstaff.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un syndrome très, très rare. J'étais dans le 15e dans le monde. En fait, c'est les globules blancs qui se retournent et qui m'agressent la myéline des nerfs. C'est comme le tronc cérébral qui débloque, quoi. Il y a un hors-circuit. Il y a plus aucune terminaison nerveuse qui passe et c'est un hors-circuit total. C'est normalement dans le temps on en mourait forcément. C'est quelque chose que ils pensaient pas qu'on pouvait en réchapper, puisque...
Mais ça veut dire que c'est un retour progressif. Je regardais la description que vous faites dans le livre, là, c'est petit pas par petit pas pour retrouver une autonomie.
Oui, terriblement longue. Terriblement longue, parce que au départ, il n'y a plus rien qui fonctionnait, sauf le cœur. Mais autrement, même pas lever les bras au premier barreau, rien. Je ne pouvais pas me découvrir quand j'avais trop chaud, me recouvrir quand j'avais froid. Je ne pouvais rien faire.
Totalement dépendante.
Oui, totalement. Et offerte, quoi. Je pouvais même pas faire une grimace, pas sourire quand quelque chose allait bien, ou faire une grimace quand on me faisait des piqûres dans les artères qui étaient tellement douloureuses, entre le métacarpe et ça. C'est terriblement douloureux, mais je bougeais pas, rien. Toujours offerte. Ça allait pas à un bras, on essayait à l'autre. Ça allait toujours pas, on recommençait là. Enfin, moi, je bougeais pas, j'encaissais tout.
Longue convalescence ou réadaptation. Oui. Il y a eu une rechute également que vous avez vécue. Vous avez remonté encore une fois. Ça a pris combien de temps avant de dire « j'ai retrouvé une vie presque normale » entre le moment où vous êtes arrivé à l'hôpital?
Oh, ça a duré au moins une année.
Une année.
Une année. 6 mois pour essayer de me relever, d'être debout. Mais alors, il manquait toutes les forces. C'est un squelette sans aucun muscle. Il fallait tout retravailler petit à petit pour remonter la pente.
Et qu'est-ce que vos médecins ont conclu de ça? D'abord, un, c'est un cas rare. Deuxièmement, quand vous leur dites « j'étais dans ce coma, mais en même temps, j'entendais, je percevais des choses ».
Ils comprennent pas.
Ils comprennent pas.
Il y a eu des dysfonctionnements, ils me disent, ils savent pas. Ils me disent, soyez heureuse d'être revenue, oubliez tout.
Et vous voulez pas oublier, vous?
Moi, je veux oublier, mais je veux d'abord que ça se sache que des gens qui sont couchés comme ça et qu'on prenne note qu'ils peuvent souffrir. Qu'on pense pas forcément que, voilà, ils sont couchés, ils sont dans le coma, ils bougent pas, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas le dire. Moi, je me dois de vraiment exprimer ça, de parler au nom de ces gens qui peuvent peut-être souffrir. Et le fait que le corps médical, il me dit déjà, grâce à vous, on va essayer de faire mieux, on va prendre.
Mais je pense aux gens qui nous écoutent et qui se disent, je suis confronté à un conjoint ou un enfant, par exemple, qui est dans un lit comme ça, qui est dans un coma. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous entend pas? Est-ce que la personne souffre? Est-ce qu'elle ne souffre? On ne sait pas comment réagir.
Oui,
on
mais il faut réagir comme si elle entendait et comme si elle peut souffrir aussi. Parce que les souffrances, c'est pas quand il y a les visites qui viennent. C'est en fait, il faudrait être à côté 24 heures pour voir, parce que devant la visite, tout se passe bien. Moi, c'était un plaisir pour moi d'avoir de la chance d'avoir des gens qui viennent me voir aussi nombreux.
Même si vous étiez incapable d'avoir des contacts directs avec
tout,
eux.
Mais
la seule présence.
C'est de savoir que des gens tiennent à vous à ce point-là, c'est fabuleux.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit, t'as rêvé ça, t'as complètement halluciné, t'étais dans un coma, ce niveau de conscience est impossible?
Non, non. Parce que j'ai dit tellement de choses. Par exemple, le soin des sinus, personne ne pouvait savoir quel produit on m'injectait. Moi, je sais très bien, bétadine verte, deux tiers en tiers, enfin, les choses que personne n'aurait... Enfin, mon entourage, déjà, il le faisait après, quand il n'était pas là. Et non, 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 c'est pas possible.
Et
ils savent que c'est vrai.
Et votre vie aujourd'hui, ça ressemble à quoi?
Oh, je suis très heureuse de vivre. Je suis très contente d'avoir fait tout ce chemin. Et je croque vraiment la vie. Les gens me disent des fois, mais est-ce que il vous arrive d'être déprimée? Ou je dis non, j'ai pas le droit. J'ai tellement de chance d'être revenue. Donc, le bonheur de me lever le matin, de me lever, d'être debout. Vous voyez, les choses simples de la vie, les automatismes, vous quand on n'a jamais rien eu, on ne pense pas à ça. Le fait de pouvoir se mettre debout, de marcher, de prendre un verre, de boire un verre d'eau. Pendant 6 mois, j'ai pas une goutte, rien ne passait, tout par l'estomac, par la gastrostomie. Donc, le fait de pouvoir refaire tout ça, de voir qu'il y a le soleil, c'est fabuleux. Donc, ma vie, c'est vrai, elle a changé. Je la croquais déjà avant, mais là, c'est un bonheur.
À chaque seconde.
Oui.
Madame Libby, merci beaucoup de votre visite ce matin.
C'est moi qui vous remercie.
Angèle Libby, l'auteur du livre « Une larme m'a sauvée », publié aux éditions Transcontinentales. 9h38, pause, et on revient après pour la suite des choses.